France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Il y a un an, disparaissait David Lynch, un cinéaste qui n'a jamais cherché à expliquer ses films, mais qui nous a appris à les ressentir, un artiste qui a fait du rêve, de l'angoisse, du double et de l'inconscient, une langue universelle, et surtout, un créateur qui a déplacé les frontières entre le cinéma et la télévision, entre l'art et la pop culture, entre le réel et le cauchemar. Ce soir, on ne va pas faire une leçon de cinéma, on va essayer d'entrer dans la tête de David Lynch, essayer de comprendre ce qu'il a ouvert, ce qu'il a dérangé et pourquoi, un an après sa disparition, son œuvre continue d'irriguer notre imaginaire collectif. Autour de la table, trois regards qui me semblent complémentaires. Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française, très heureux et honoré de t'avoir ici. Merci d'être venu.
Ouais.
Merci beaucoup. Nathalie Bitinger, maître de conférences en cinéma à l'Université de Strasbourg, autrice notamment du livre Garde l'œil sur le donut, pas sur le trou, une plongée patiente dans la pensée et les obsessions de David Lynch. Merci d'être là.
Merci à vous.
Et Sidi Sid, rappeur, membre du groupe Butter Bullets, qui est peut-être une des premières personnes qui m'a parlé de David Lynch à une époque, qui m'a donné envie de regarder des films, et notamment Twin Peaks. Merci d'être là.
Ben merci à toi.
On va donc tenter de plonger dans la psyché de David Lynch et probablement devoir accepter de ne pas tout comprendre. On est ensemble pendant une heure à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Good morning. It's January 15. We always say there's a pretty good chance that from time to time we will see some beautiful blue skies and golden sunshine. We just don't know. Everyone, have a great day.
C'était un Weather Report de David Lynch qui datait du 15 janvier. Commencez avec une question extrêmement simple. Nathalie, est-ce qu'on peut se souvenir peut-être de ton premier souvenir, ta première rencontre avec David Lynch? Elle se passe comment? Elle se passe avec quoi?
Elle se passe avec Twin Peaks, dont tout le monde me parlait, mais qu'il était
la
pas...
série.
La série Twin Peaks est pas facile à trouver, forcément. Donc, il y avait du trafic. Voilà, donc ça, c'est ma première rencontre. Et après, au cinéma, du coup, c'est Lost Highway en 97. Mais entre-temps, ça m'avait donné envie de plonger dans Elephant Man et puis surtout le choc époustouflant de Eraserhead.
On va en parler, évidemment, juste après. Frédéric, quand est-ce que tu découvres David Lynch?
Ah ben, avec le choc époustouflant de Eraserhead, parce que je suis beaucoup plus vieux.
Ouais.
Alors, j'étais pas bien vieux à l'époque, je devais avoir 12 ou 13 ans, donc je prétends pas avoir compris grand-chose, mais j'ai vu le film en salle, dans une salle du regretté Frédéric Mitterrand, d'ailleurs. Et j'avais pas tout compris, loin de là. Je crois que j'avais eu très peur aussi, quand même, surtout avec les cailles qui se vident de leur sang épais, là, en bougeant les ailes et ce genre de choses, mais j'avais été très impressionné. Et puis ensuite, je crois que je me suis dit qu'il était vraiment important. Pourtant, celui-là, quand j'ai vu Blue Velvet, qui était son quatrième long métrage, ouais. Et là, on devait être, j'étais un peu plus vieux, et lui aussi, on devait être vers 86.
Et toi, Sid d'ailleurs, qui a ramené des donuts aujourd'hui, il faut le dire, pour les gens qui nous écoutent, en référence à David Lynch, est-ce que toi, c'est une pique? Parce que je sais que tu as une grande obsession pour notamment la série.
Ouais, moi, c'est ma grande sœur qui, je pense qu'en France, alors peut-être pas les premières diffusions françaises, mais les deux ou troisièmes sur Canal Jimmy, je crois. Peut-être que vous saurez me reprendre, ouais. Et du coup, moi, j'étais beaucoup plus jeune, et c'est ma sœur qui regardait ça, donc qui les enregistrait. Et j'ai effacé une de ces cassettes pour enregistrer un match, je crois, des Bulls de Chicago.
Ouais.
Je me suis fait drôlement engueuler. Et au début de ce fameux match, j'avais mal fait mon enregistrement, il y avait encore le générique de Twin Peaks.
Wow, okay.
À partir de là...
Ouais.
J'étais complètement foutu. Du coup, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir effacé. Mais au final, non, pas du tout. Du coup, c'est à ce moment-là. Donc, je sais pas, ça doit être fin... Pas fin 90, mais...
Ouais, dans ces eaux-là, en tout cas.
96, 17, peut-être, un truc comme
générique
ça.
Hypnotique, s'il en est. Alors, on a parlé d'Eraserhead, effectivement, qui est son premier film. Mais, alors, évidemment, on n'a qu'une heure. Hein, donc, c'est compliqué de parler de toute la filmographie de David Lynch. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être justement l'articulation entre Eraserhead et Elephant Man, qui sont des films assez différents. Eraserhead, c'est quand même très compliqué à catégoriser, comme beaucoup de films de David Lynch, mais un peu facilement, on peut dire que c'est un film d'horreur, mais sauf que c'est pas vraiment le cas, à mon avis. Et Elephant Man me semble être un film peut-être beaucoup plus classique dans sa forme, dans la manière de traiter justement le sujet. Comment vous voyez cette évolution-là? Est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose qui semble presque assez étonnant quand on regarde les deux films à la suite, au-delà des thèmes qui semblent évidemment assez lynchiens, mais dans la manière de traiter le sujet, j'ai un peu le sentiment que c'est presque surprenant, que ces deux films finalement assez différents. Comment vous voyez cette évolution, Nathalie, par exemple ?
Eh bien, Eraserhead, c'est son premier film qu'il va pouvoir, auquel il pourra se consacrer pendant 5 ans lorsqu'il est à l'American Institute Film. Ouais. Et il est complètement barge, déjà génialement barge, c'est-à-dire qu'il a toute sa bande d'amis et travaille comme un fou, la nuit, il tourne. Et c'est comme si ça sortait de sa psyché, cet univers truffé de choses sombres et inquiétantes. Et ça lui donne d'emblée ses lettres de noblesse grâce au circuit des Midnight Movies. C'est un dernier Midnight Movies. Et David Lynch dit heureusement que pour les objets étranges, donc cette dystopie un peu grinçante dans un lieu indéterminé avec le bébé alien, bah, il fallait un circuit de cinéma bien particulier. Ouais. Mais le film d'après, c'est sous l'égide de Mel Brooks, et Mel Brooks voit Eraserhead et lui dit, parce que personne n'avait encore entendu parler de David Lynch, mais pour appâguer Brooks, il regarde Eraserhead et il lui dit « David, t'es mon gars, je t'aime, on fait le film ». Et distribué par Paramount.
Donc voilà, il était repéré via Eraserhead. Frédéric, qu'est-ce que tu penses de Elephant Man, de ce film, qui est évidemment un film qui a marqué les gens dans les années 80. Est-ce que pour toi, c'est son premier grand film ?
Non, pour moi, son premier grand film, enfin, je ne sais pas si Nathalie sera d'accord, mais c'est vraiment Blue Velvet. Hein. C'est là où, pour moi, il explose. Et Eraserhead, c'est exactement ça. C'est un film d'étudiant, c'est un film de fin d'études, c'est un film expérimental, c'est un film underground. Encore aujourd'hui, on ne sait pas comment certains effets spéciaux du film ont été faits. Et Lynch disait, on ne le dira jamais. C'est-à-dire que moi et mes potes de l'époque, on ne dira jamais.
Il aime bien ne pas dire les choses.
Non, il aime bien ne pas dire les choses et garder le secret. Donc je crois que c'était comment on arrivait à faire fonctionner le bébé.
Oui, on a parlé, mais personne n'est sûr d'un fœtus d'agneau. Mais c'est des rumeurs, on ne sait pas.
Alors, on ne sait pas. Tandis qu'Elephant Man, alors je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne sait qui est Mel Brooks, hein, quand même, c'est un nom très très oublié.
Oui, c'est vrai.
Mais à l'époque, c'était quelqu'un de très connu, qui faisait dans la parodie, qui était un comique, qui avait fait des films un peu cultes, comme Frankenstein Junior, par exemple, et qui était un producteur. Ouais. Alors là, je parle sous le contrôle de Nathalie, parce que j'ai un peu oublié, mais je crois que ça avait été un succès au théâtre, hein, Elephant Man à Londres, c'était une pièce de théâtre qu'avait joué David Bowie, ça nous faisait beaucoup fantasmer. Mais quand même, parce que Bowie en train de jouer John Merrick, ça devait être quelque chose. Et donc, en fait, c'est une commande. Là, il se retrouve dans un processus hollywoodien. C'est-à-dire que c'est un petit génie qui a fait un film qui ressemble à rien d'autre avec ses copains de fac. Et puis, il y a Hollywood. Alors, c'est un Hollywood un peu bizarre, Mel Brooks. Oui. Mais c'est quand même Hollywood qui vient lui dire, ben, viens donc faire un film classique avec nous. Et en même temps, c'est un film sur un monstre. Et dans Elephant Man, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ce qui est très lynchien, ce qui est à dire un adjectif qui n'existait pas encore à l'époque, on ne disait pas que les choses étaient lynchiennes, ouais. Il me semble que c'est toute cette Angleterre industrielle. Le côté, l'Angleterre de la révolution industrielle, les machines, le feu, les flammes, la fumée, voilà. Ça, il avait déjà trouvé quelque chose de personnel. Mais c'est quand même une commande. C'est-à-dire que je pense, après, il y aura une autre commande qui sera Dune.
Absolument.
Et je pense qu'après, il y aura le premier grand film, peut-être totalement personnel, depuis Eraserhead, c'est-à-dire Blue Velvet.
On en reparlera un peu après, mais puisque tu parles de la commande qui y a eu, c'est Dune, effectivement, qui est un film souvent vu un petit peu aujourd'hui comme une erreur de parcours, si tu es prêt à défendre Dune, j'adore, parce que moi j'adore les défenseurs des causes perdues, et Dune me semble être une cause, le Dune de Lynch en tout cas, intéressante à défendre.
Avant le Dune de Villeneuve, ça l'était, et suite à ça, en fait, je pense ne pas être le seul, il y a énormément de gens qui se sont dit, mais peut-être que le Dune de Lynch était vraiment pas si dégueulasse, en fait.
Ah, tout à fait
et
d'accord.
Et moi, le premier, en fait.
Tout à fait voilà. D'accord.
Pareil ici ?
Non.
Ça a toujours été un très bon film.
Non,
pour
mais
toi,
je suis très content que tous les deux, vous le défendiez, mais parce que moi...
Je ne le défends pas.
Non, mais un peu, quand même.
Pas vraiment.
Alors, explique-nous, alors.
Non, je ne le défends pas, mais je dis que, en y revenant...
Oui, tu le réévalues.
Ouais, je le réévalue. À la hausse, mais je... C'est pas un chef-d'œuvre, mais quand on voit le Dune de Villeneuve, c'est un chef-d'œuvre. Bon, finalement, je le défends, ok.
C'est parce que tu détestes de
je
Villeneuve.
Je déteste pas. C'est faux. Je déteste pas.
Moi qui adorais la saga de Frank Herbert, le Denis Villeneuve, pour moi, il est trop grisâtre parce que j'avais envie d'un super Vert des Sables.
Il est surtout faux.
Et oui, mais c'est des ressentis personnels. Mais par contre, j'ai envie de réévaluer à la hausse le Dune de Lynch comme objet bizarre. Moi,
qui est magnifique.
C'est un film tordu, plein de débordements, il n'avait pas les mains libres, mais il reste quelques traces et pépites. Alors après,
magnifique.
Bon,
visuellement, c'est magnifique.
En tout cas, ça bouillonne d'idées.
Il serait en tout cas très content de vous entendre. C'est vrai, une de ses dernières interviews qu'il a données, je ne sais plus si c'était au Cahier du cinéma ou aux Un Rock, il refusait même d'en parler.
Il le renie complètement.
Voilà, non, mais il refusait même parce que c'était douloureux pour lui de voir le Dune de Villeneuve. Donc je pense qu'il aurait été ravi de trouver des défenseurs. Là.
Bon, alors, David Lynch, évidemment, c'est un cinéaste, mais c'est aussi quelqu'un qui faisait de la musique. Je vous propose qu'on écoute un morceau de David Lynch, un morceau sorti en 2011 sur l'album Crazy Clown Time, s'appelle Good Day Today, et juste après, on va parler du premier, selon Frédéric, grand film de David Lynch, Blue Velvet. C'était un morceau donc de 2011, Good Day Today, de David Lynch, puisque l'émission du soir lui est consacrée.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
What kind of beer do you like?
Heineken.
Heineken? Fuck that shit! Pabst Blue Ribbon!
Un extrait donc de Blue Velvet, et donc de Dennis Hopper, qui est quand même une des figures qui incarne le mieux les méchants au cinéma. Est-ce que c'est un méchant? Oui, je crois que oui, quand même, dans Blue Velvet. Je crois qu'il y a, pas moyen de se poser la question.
Il va être dur à défendre.
Il va être dur à défendre là-dessus. En quoi Blue Velvet divise à sa sortie, Frédéric?
Bah, c'est tellement bizarre, quoi. Ouais. On n'avait jamais vu ça, en fait. On n'avait jamais vu ça dans le cinéma américain. Il a une façon de s'emparer de chromos qui paraissent complètement inoffensifs, c'est-à-dire vraiment la barrière blanche, la girl next door, qui est Laura Dern, qui est la gentille fille de l'école, Kyle MacLachlan, avec sa chemise boutonnée jusqu'au dernier bouton, qui est un peu le nouveau James Stewart. Ouais, et donc, il prend comme ça des chromos, en fait, des clichés d'Americana, des les années 60 ou même 50, où tout a l'air absolument idyllique. Et puis, en fait, il montre un monde en dessous, un monde souterrain qui, lui, est un monde expressionniste, un monde gothique, un monde malfaisant qui est peuplé de monstres, de violences très fortes.
Beaucoup de violence.
C'est un film très violent, hein, Blue Velvet.
Absolument.
Et ça a beaucoup choqué, et ce qu'on comprend tout à fait. J'étais moi-même, je pense, très choqué à l'époque, parce que convoquer Isabella Rossellini, qui est quand même la fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, donc c'est pas n'importe qui, pour lui faire subir ce que Dennis Hopper lui fait subir dans le film, évidemment qu'on était choqué. Mais on n'avait jamais vu ça. Et c'est quelqu'un qui installe un univers et qui, en fait, fait un nouveau film noir. Mais un film noir comme on l'avait jamais vu. Et Isabella Rossellini, dans ce film noir, est sûrement une femme fatale, mais une femme fatale qui est elle-même très, très éprouvée. Et on sait bien que la définition, en gros, du film noir, c'est un type ordinaire, donc c'est Kyle MacLachlan dans le film, qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui fait un pas de côté, un peu pour l'amour d'une femme, fatale ou pas, vénéneuse ou pas, et qui tout d'un coup se retrouve dans un monde dont il ne soupçonnait en fait même pas l'existence. Et ce monde, et c'est ça qui est intéressant chez Lynch, c'est qu'il a des très grandes oppositions, comme ça. Ce monde, c'est le mal, c'est-à-dire avec un M majuscule, et il va avoir beaucoup, beaucoup de mal, justement, à se dépêtrer de tout ça.
Nathalie, est-ce qu'il y a une morale dans ce film Blue Velvet ?
Oh là, je pense que c'est l'ambiguïté de la nature humaine qui passionne Lynch. Et ce qu'il a toujours voulu faire, c'est aller gratter derrière la surface des apparences. Parce qu'en fait, très très jeune, dans l'Amérique profonde, où il court les bois, et ben, son père, qui est ingénieur des eaux et forêts, il va lui faire voir des milliers d'insectes épinglés. Il va travailler sur la pourriture qui ronge. Et ça, il l'applique à l'Amérique, au cliché de l'Amérique. Et derrière le monde des palissades, de la tarte aux cerises, etc., il y a des ogres dégénérés. Quand on plonge dans la terre, quand on trouve une oreille coupée dans un champ... Et donc, du coup, c'est vraiment la palette des émotions humaines, le bien, le mal, avec Kyle MacLachlan, il est au départ complètement naïf, mais il va être attiré par l'obscurité de l'arrière-monde, entraîné par Dorothy Wallace, jouée par Isabella Rossellini. Ouais. Donc, il va vouloir aller creuser derrière la surface, voir derrière la vitre, et ce qu'il va voir va être absolument affreux. Et à côté de ça, il y a la belle et blonde Sandy, qui est la douceur incarnée. Donc, tout est résumé par le plan final, vous vous souvenez, c'est ce rossignol sublime qui est en train de becquer, de gober un asticot. Donc c'est la saveur doux-amère des films de Lynch à l'image de la nature humaine, et effectivement c'est un vrai choc à la vision.
Fid, t'as été choqué toi aussi par Blue Velvet ?
Moi je l'ai vu tellement jeune que... Alors c'est pas mon film préféré, pardon, de Lynch, mais je crois que c'était trop pour moi de... C'est hyper violent.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est... Enfin, Twin Peaks c'est tout aussi violent, mais c'est beaucoup plus long. Hein. C'est beaucoup plus long, donc là on est sur un condensé de... à quel point l'homme est mauvais. L'homme avec un grand H et l'homme avec un petit H aussi, du coup. Ce qui est un petit peu un de ces classiques à Lynch de nous le montrer, mais comme tu disais, vraiment, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, finalement, c'est pas si beau que ça.
Ouais, ouais. Ouais. Bon, puisqu'on t'en parle, on peut tout de suite aller sur le sujet Twin Peaks.
Beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo, oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. Now she's starting to leave. So fall down. Keep falling. Keep falling. Keep falling. Now go back into the dark woods.
Angelo Badalamenti qui explique comment il a écrit le thème de Laura Palmer's thème, le mythique. Fid, qu'est-ce que ça change à la télévision américaine Twin Peaks ? Parce qu'en fait, les séries, tout, selon
tout,
toi Frédéric,
c'était
pas, avant les séries, c'était pas, ça ressemblait pas à ça en fait. Ça
ressemblait
pas
à un... Là je sais pas, peut-être Nathalie le sait, moi je suis même pas sûr que le mot série existait.
On parlait de soap opéra,
de soap opéra. C'est peut-être la première des choses à dire. Le mot de série même n'existait pas. Ouais. Donc Twin Peaks, c'était un feuilleton. Voilà.
Alors qu'on attend. En fait, c'est la première fois que des gens attendent, comme c'est arrivé avec Lost, par exemple.
Oui, des années après.
Des années après, c'est la première fois où les gens attendent.
Alors c'est pas la première fois, parce que les feuilletons.
Aussi intensément, quoi.
Ah, oui, mais pour savoir qui a tué JR, tu sais. Non, mais je rigole. Mais c'est pour dire d'où on venait. Oui. C'est-à-dire qu'on venait effectivement du soap opéra à la Dallas. On venait des feuilletons formidables, mais à mystère type Columbo, quoi, etc. Et tout d'un coup, on voit quand même débarquer Twin Peaks. Alors, oui.
Qui mélange des genres, en fait. Ça ressemble à du soap opéra parfois. Et puis, en fait, ça met plusieurs ingrédients.
Le film de Teenagers aussi. Ce qui était déjà le coup de Blue Velvet. C'est-à-dire qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour arriver à démontrer que Twin Peaks est une sorte de rapidez déjanté. Il y a ça aussi, c'est quand même des teenagers qui mènent l'enquête parce qu'une de leurs camarades a été, la fameuse Laura Palmer,
ce qu'on apprend dans le premier épisode,
a été retrouvée assassinée. Donc oui, ils mélangent beaucoup de genres, mais on n'avait jamais vu ça à la télévision. Effectivement, on attendait de semaine en semaine ce qui allait se passer. Et alors, la première diffusion française, si ma mémoire est bonne, pour compliquer encore un peu les choses, c'était même pas Canal Jimmy. Il me semble que c'était la 5 de Berlusconi.
C'est la 5, ouais,
voilà,
c'est
ça, tu confirmes.
Canal Jimmy, c'était des rediffusions, et avant, il y a eu Série Club.
C'était la 5, Série Club. Donc c'était la 5 de Berlusconi qui faisait n'importe quoi.
Qui l'a diffusée.
De temps en temps, il mélangeait les épisodes.
En prime time, avec
une VF, les types s'obstinaient à nous parler de tarte aux pommes alors que c'était cherry pie. Mais tarte aux cerises, c'était trop compliqué.
On n'avait pas ça.
Donc tarte aux pommes, c'est bon, on connaît. Donc tarte aux pommes. Donc c'était diffusé n'importe comment, il se trompait dans l'ordre, la VF était épouvantable, et presque avec le recul, je me dis que ça rajoute encore à l'étrangeté du truc, mais on a l'impression que c'est un feuilleton où littéralement Lynch et Mark Frost, qu'il faut pas oublier parce qu'il a un complice, se lâchent. Littéralement. C'est-à-dire qu'avec le médium télé, ils peuvent y aller, et donc on voit presque une gradation d'intensité d'épisode en épisode, on va toujours plus loin, y compris d'ailleurs sur des choses sexuelles, enfin, il y a des histoires de bordel à la frontière canadienne, etc. Enfin, on sent que les adolescents du début, qui avaient l'air tout gentils, tout propres, etc., eh ben, sont peu à peu précipités dans le monde des ténèbres dont parlait Nathalie tout à l'heure.
On déchante vite sur les beaux adolescents américains.
C'est aussi une œuvre qui s'étale sur plusieurs années, en fait, parce qu'il y a évidemment la série, le film, et puis Twin Peaks 25 ans après. C'est assez rare, finalement, en fait, que quelque chose soit aussi mythique et intriguant et fascinant pour survivre comme ça aussi à l'épreuve du temps et continuer à exciter le public des années après, Nathalie.
Bah surtout que en fait Lynch il est génial, il est roué, il est malin, parce qu'en fait le double de Laura Palmer donnait rendez-vous à Dale Cooper 25 ans plus tard, donc ça c'est en 91, fin de la deuxième saison, et donc 91 plus 25 ans, alors il y a eu un an de retard, elle est pas sortie en 2016 mais en 2017. Et là on a donc Twin Peaks saison 3. Donc pour les fans, sachant que Twin Peaks est parsemé de prophéties mystérieuses et que par exemple à un moment on entend que votre chewing-gum préféré va revenir à la mode, pour les amoureux de Twin Peaks, on se dit il va le faire, Lynch va nous offrir la troisième saison, et bam, là on a un choc parce qu'en plus on retrouve des éléments, mais il y a aussi une toute nouvelle dimension qui a été apportée par tout ce qu'il a pu faire dans le site internet, le numérique, qui va donner sa patte tout à fait singulière à Twin Peaks saison 3, qui est quand même assez différent de saison 1 et 2, tout en poursuivant, et voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas encore découvert.
Et puis le délire de s'amener lui-même dans le feuilleton. C'est-à-dire que quand on voit arriver Lynch lui-même en chef de Dale Cooper, il s'appelle
Gordon Cole.
Il est sourd comme un pot, comme moi. Donc ça me le rend encore plus sympathique. Et donc c'est Lynch lui-même qui joue le supérieur du FBI complètement déjanté. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que malgré l'étrangeté, ça reste un feuilleton.
Exactement.
C'est-à-dire que ça marche par mot de passe, en fait. Si quelqu'un me dit « joli travail Albert », eh ben je sais que je suis sur un fan de Twin Peaks. Ouais, voilà, il y a des choses comme ça qui sont devenues des gimmicks, même avec la version française, hein, beaucoup plus qu'autre chose. Donc la version française, voilà, ça a donné des gimmicks. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, le seul qui avait fait un peu ça à la télévision avant lui, au fond, et c'est quand même peut-être le cinéaste qui est le plus important pour lui, c'est Hitchcock. Parce que Hitchcock, au sommet de sa gloire d'Alfred Hitchcock, avait fait de la télévision.
C'est vrai.
C'est la fameuse série Alfred Hitchcock présente.
Absolument.
Et donc, il avait amené quand même l'univers d'Alfred Hitchcock dans les foyers américains. Alors, il y allait quand même beaucoup plus mollo que Lynch, et même, il y allait plus mollo que dans ses films pour le cinéma. Tandis que Lynch, qui fait... c'est qu'il y va plus fort. C'est-à-dire que Twin Peaks, la série, va encore plus loin que les films que les de films. Lynch, et ça arrive dans les salons et les téléviseurs des Américains. Ouais. Et donc ça, effectivement, ça s'appelle une révolution, oui.
Nathalie ?
En fait, il ouvre la voie dès 90 à tout ce qu'on a appelé le troisième âge d'or de la série, qui commence avec les Sopranos, ouais, etc. Et en fait, en 90, il va exploser les limites du petit écran en reprenant les codes du soap-opéra pour les véroler en même temps qu'il vérole la... donc le sexe et la violence pour véroler, là encore, la cellule familiale américaine. Et ça, personne n'avait vu ça par rapport à... Je veux dire, donc il y a aussi cette ironie, cette drôlerie, cette burlesque et le tragique, c'est génial.
Sid, est-ce que tu as le même amour pour le film que pour la série ? Ou est-ce que tu arrives à départager ça ?
Je vais me faire taper. Je crois que c'est mon Lynch préféré, le film même.
Ok.
Ouais.
Frédéric a l'air d'acquiescer.
Ouais,
je ne veux pas être choqué par cette affirmation.
Non, c'est, film, c'est le film. Le film, c'est vrai, a été très mal accueilli.
Ouais, exactement. C'est pour ça que c'était
produit en France, hein, d'ailleurs.
Produit par Francis Bouygues. Alors ça, c'est vraiment le mariage de la carpe et du lapin. L'empereur du BTP, David Lynch. Bon, l'Auvergnat qui fait des maisons Bouygues et David Lynch. Bon, d'accord. Mais donc voilà, production Francis Bouygues. Twin Peaks, le film, bide commercial absolu, épouvantablement mal accueilli. Je suis absolument d'accord.
Chef-d'œuvre. Moi,
quand on le revoit, on se dit waouh, vraiment. C'est-à-dire, et là, tout d'un coup, comme c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, il y a même David Bowie. C'est-à-dire que celui qui avait créé Elephant Man à Londres, il est dans le film. Et je trouve que je suis assez d'accord, c'est un film encore aujourd'hui un peu bouclé à double tour. On ne peut pas le prendre facilement, mais assez fascinant.
Et qu'on peut voir sans avoir vu la série.
Oui, qui est un
c'est
objet qui
deux histoires complètement différentes.
Autosuffisant. Ouais. Bon, je pense qu'on écoute un morceau. Morceau bon, que vous allez évidemment reconnaître aux premières notes. Julie Cruz, Falling, évidemment, qui est une des choses les plus belles et hypnotiques qui soit. On s'écoute ça tout de suite et après, évidemment, on continue à parler de David Lynch.
Don't let yourself be hurt this time.
quelques minutes, un moment suspendu dans le studio, puisque Julie Cruz chantait Falling.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Fameux Silencio de Mulholland Drive, donc qui est, on en parlait un petit peu en antenne, Frédéric disait, c'est le début de l'unanimité. Et c'est vrai que c'est un moment important avec un film qui est célébré, même si j'ai l'impression que c'est un peu le film qui est tout le temps cité quand on parle d'un film qu'on aime, qui nous hante, mais qu'on ne comprend pas complètement. C'est devenu un petit peu la réponse qu'on donne quand on parle, oui, un film qui j'y ai pensé pendant des semaines, mais je ne sais pas vraiment ce que j'ai vu. C'est devenu vraiment l'objet non identifiable, mais en même temps célébré par beaucoup de gens. Pourquoi Mulholland Drive met plus de gens d'accord, Frédéric?
Parce que je crois qu'il est devenu un cinéaste de la pleine maturité, c'est-à-dire qu'il n'a rien perdu de son univers, et qu'en même temps, il atteint son propre classicisme. Voilà, on peut dire ça avec Mulholland Drive. C'est-à-dire que c'est un film... Les films de Lynch, ils déplaisaient par leurs outrances, en fait, aux gens qui les aimaient pas, et en particulier la violence de Sailor et Lula, par exemple, malgré la Palme d'Or au Festival de Cannes, oui. C'est un film qui a été très attaqué. Moi, je me souviens quand on parlait en France à des universitaires et qu'on leur disait David Lynch est un cinéaste énorme, enfin, ils étaient prêts à appeler les pompiers, quoi. Ils criaient au fou, où je me souviens d'un déjeuner à New York avec des critiques américains et qui me disaient « Alors, selon vous, vu de Paris, quel est le meilleur cinéaste américain ?» Je leur répondais « David Lynch, j'étais pas pris au sérieux une seconde.
Ouais. »
Tandis que Mulholland Drive, on voit bien que c'est quelqu'un qui est arrivé à déployer son univers sans outrance, c'est-à-dire à faire un monde ouaté, à faire un monde feutré, qui regarde l'histoire du cinéma dans les yeux. Ça aussi, c'est très important. C'est-à-dire que Mulholland Drive, c'est évident et ça a été beaucoup dit, mais quand même, c'est le nouveau Vertigo, quoi, de toute évidence.
Hitchcock,
voilà, c'est tellement clair, les deux femmes doubles, etc., etc. Bon, voilà. Et en plus, effectivement, c'est le moment où il est accepté. C'est-à-dire que oui, tu as raison. C'est un film où on ne comprend pas tout, où sans doute on ne comprendra jamais tout, malgré les tonnes de littérature, alors surtout sur Internet, qu'il y a sur le film, mais on accepte qu'il y ait des choses qui restent mystérieuses, oui, qui restent insondables. Et puis, il y a ce mélange qui est terrible chez lui. Je me souviens qu'une fois, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous êtes assez fleur bleue. Je ne sais plus comment ça se dit en anglais, comment le traducteur a traduit ça. Mais il m'a dit, oh là là, oui, je suis très fleur bleue. Donc, ce côté cinéaste romantique. En fait, c'est un cinéaste romantique, David Lynch. Et là, c'est la passion éperdue de deux femmes, et l'une va perdre l'autre, et finalement elle va en mourir, quoi. Elle va succomber à sa passion. C'est vraiment, pour lui, je pense, le grand film de la passion. C'est-à-dire que c'est aussi son grand film d'amour. Donc oui, ça met tout le monde d'accord, alors que ça reste un rébus. C'est ça qui est balèze.
Sidi Sid, toi qui as des théories sur tout, qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce film?
Alors,
je suis sûr que tu as une théorie.
Premièrement, non. Premièrement, faut-il comprendre quelque chose pour l'aimer?
Non, justement, bon, c'est ça la beauté, voilà. de peut-être même une grande partie de l'œuvre de Lynch.
Ouais, et moi, par exemple, tu peux me spoiler une série ou un film, ça ne me changera pas grand-chose, quoi. La théorie, ben, il n'y a pas de théorie, mais... Enfin, il y en a plein, mais... Moi, je me souviens qu'à l'époque, quand il est sorti, j'étais super jeune aussi, je l'ai vu au ciné, et c'était un peu le début de ce qui s'est passé avec Lost.
Oui, tout à fait. Et je pense que d'ailleurs, Lost, c'est rien pendant.
On en parle après, mais oui.
C'est vraiment une forme de descendant, en tout cas, pour moi.
C'est le plus grand fan de Lynch de l'histoire, Lindelof.
Lindelof, exactement. Un des créateurs de Lost, absolument.
Qui est
comme d'ailleurs The Leftovers, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont...
Qui est le plus bel hommage à Twin Peaks de la série possible et imaginable, selon moi, encore une fois. Mais non, il n'y a pas forcément de lien à faire avec cette boîte. Ou quand on arrive dans la boîte, c'est avant, c'est après, c'est peut-être qui aurait dû se passer, peut-être. Mais en tout cas, à l'époque, c'était hyper cool d'en parler.
Ouais, c'est ça.
Avec ses potes et de dire, mais alors toi, c'est marrant, parce qu'il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, donc c'était un peu confidentiel, on va voir le film.
Je suis d'accord avec toi sur la comparaison avec Lost, parce que pour moi, Lost, c'était ça, c'était un moment de discussion, alors pour moi, à l'époque, des forums, avant les réseaux. Effectivement, il y avait ça avec Mulholland Drive, cette histoire de qu'est-ce que toi, t'as compris, est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que ça signifie. Nathalie, pourquoi cette notion du double dont parlait Frédéric, elle est aussi importante chez David Lynch, parce qu'elle n'est pas présente que dans Mulholland Drive, cette histoire de double.
Alors, il y a la blonde et la brune déjà dans Blue Velvet. Hein. Laura Dern et Isabella Rossellini, face sombre et face lumineuse d'un être féminin confronté à des choses étranges. Donc c'est quelque chose qu'il a toujours aimé travailler. Son objet préféré, c'est les rideaux. Aller voir derrière le rideau, l'arrière-monde toujours. Et donc ça, on va le retrouver décliné absolument dans toute sa filmographie. Et là, l'arrière-monde, c'est par le biais de cette boîte bleue et de cette clé. Par contre, David Lynch, lui, comme vous l'avez dit en introduction, il ne veut absolument pas qu'on débriefe. Il joue même avec l'envie de...
Il fait exprès.
L'envie déductive du spectateur. C'est aussi pour ça que Mulholland Drive a plu, parce que du coup, on va être aussi inspecteur et on va essayer de recoller les pièces. Sauf que grâce à Lynch, chez Lynch, ça ne marche jamais de recoller les pièces. Et donc, lui, il disait le coffret et la clé, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Mais c'est une pirouette pour envoyer...
Passer d'un monde à l'autre.
Parce que c'est un cinéaste sensoriel qui voulait qu'on soit happé par la profondeur de ses univers, de ses visions, mais la thématique du double, elle est omniprésente. Hein. La chambre rouge, c'est un double inversé maléfique du monde réel, et donc dans Twin Peaks saison 3, il y a le double maléfique de Dale Cooper, il y a Dale Cooper un peu bedonnant, qui ne sait pas où il est. Donc on a toujours ce travail sur monde, arrière-monde, l'être humain mélange de bonté et de souffrance, et donc ça se décline dans Mulholland Drive, même au niveau de la structure narratif, puisqu'avec la boîte et la clé, hop, on reprend les mêmes noms, les mêmes actrices ou acteurs, et on redistribue tout. Et donc, dédoublement d'identité, est-ce que c'est une version alternative? Est-ce que c'est un métavers? Rêve cauchemar, c'est trop simple pour quelqu'un comme Nietzsche. Ouais. Mais voilà, il y a tout ça qui se brouille et c'est une gigantesque énigme sans résolution.
Et c'est une énorme critique d'Hollywood aussi, on en a oublié d'en parler, mais c'est peut-être même sa plus grosse, non ?
C'est sa vision des choses, effectivement, c'est sa vision des choses de ce qu'on appelle le miroir aux alouettes. C'est-à-dire que Naomi Watts, c'est vraiment la blonde innocente et pure et qui arrive de sa province pour réussir dans le cinéma à Hollywood et qui évidemment va être broyé par la machine. Mais alors ça, par exemple, je me souviens d'avoir essayé à l'époque de lui faire parler du film par rapport à Sunset Boulevard, des classiques comme ça du cinéma américain sur Hollywood. Ouais. Peine perdue.
Il a été broyé. Il a été broyé.
Avec Monsieur Rock, là, qui est Michael G. Anderson, le nain de la chambre rouge, qui est dans sa chambre d'hôtel au fin fond et qui passe des coups de fil.
C'est la fille.
This is the girl. Le réalisateur qui dit non, c'est mon film, je fais ce que je veux, finalement c'est plus ton film. On a presque une réflexion sur les liens, je vais un peu loin, mais entre cinéma et mafia, Lynch qui règle quand même un peu ses comptes, par exemple quand il a perdu le final cut de Dune.
Avec les producteurs, absolument. On parle de David Lynch jusque 23h.
We've met before, haven't we?
I don't think so. Where was it you think we met?
At your house, don't you remember?
Extrait de Lost Highway. Frédéric, je crois que tu disais en antenne que c'est peut-être ton Lynch préféré.
Ouais, Lost Highway, c'est peut-être celui qui me fascine le plus à cause de son mélange avec un certain réalisme presque dur sur le couple, en particulier sur ce couple qui est en train de se défaire complètement quand Patricia Arquette refuse de le suivre dans sa boîte de jazz où il fait ses impro free jazz au saxo, et elle lui dit je préfère rester à la maison pour lire, et il lui répond pour lire quoi? Enfin là, on sent que ça va quand même très très mal, quoi. Ça va pas fort du tout. Donc voilà, c'est vraiment. Alors c'est quelqu'un qui a connu des grandes passions amoureuses et puis des grandes désillusions, hein, comme tout le monde. Donc il doit savoir à peu près de quoi il parle. Et puis ce mélange invraisemblable, c'est-à-dire ces chocs d'espace et surtout de temps, ces chocs d'espace-temps. C'est-à-dire que le film peut changer complètement et tout d'un coup, on est ailleurs. Alors, est-ce que c'est une réincarnation? Est-ce que c'est un double? Est-ce qu'il a franchi les couloirs du temps pour se retrouver ailleurs? Enfin, tout ça reste quand même totalement mystérieux. Mais ce que j'aime, c'est que j'en parlais un peu tout à l'heure, il y a un genre hollywoodien américain que j'aime profondément, c'est le film noir. Et peut-être que Lost Highway, c'est ça réflexion vraiment la plus approfondie sur ce genre qui a été très important aux États-Unis, qui peut l'être encore aujourd'hui et qu'on a appelé le film noir.
Alors, tout à l'heure, Frédéric disait que David Lynch, je t'avais dit qu'il était finalement un acteur romantique. Et mine de rien, en vous écoutant, c'est vrai que finalement, le couple ou les relations amoureuses, c'est pas quelque chose qu'on dit immédiatement quand on parle de David Lynch, mais alors, tu as mentionné Sailor et Lula, qui est donc la palme d'or de David Lynch en 1990, si je ne dis pas de bêtises, qui est vraiment une histoire d'amour, en fait, entre Laura Dern et Nicolas Cage. Finalement, est-ce que c'est pas aussi ça, David Lynch, Nathalie, finalement, un réalisateur qui aimait filmer l'amour? Parce que c'est pas quelque chose qu'on dit.
Alors,
immédiatement quand on parle de lui.
Lui-même, Lynch, était très séduisant. Alors vous avez la chance de l'avoir rencontré, je vous envie. Bon, et il a toujours eu plein de copains. Son père, il déménageait tout le temps. Après, les femmes l'aimaient beaucoup. Il a été marié 4 fois. Il a eu une grande histoire d'amour avec Isabella Rossellini. Et je trouve qu'il sait filmer les femmes et de très belles histoires d'amour, sauf quand celles-ci sont vérolées. Mais si on pense à Jeffrey et Sandy, Sandy jouée par Laura Dern à la fin de Blue Velvet, elle lui pardonne le fait qu'il soit passé du côté obscur. Donc, oui, l'amour et la haine, le mal et le bien, c'est toujours ce roi des contrastes, Lynch. Il va vraiment regarder toutes les facettes de la nature humaine, et donc ça donnait des grandes histoires d'amour, et je trouve intéressant qu'il ait vécu lui-même une grande histoire d'amour avec Isabella Rossellini, qu'il filme magnifiquement en femme fatale déchue, en femme blessée, quand elle est nue dans la rue. C'est une image d'enfance, ça, d'ailleurs, hein. Et qu'elle est si vulnérable, c'est poignant.
Et puis des scènes inoubliables, pour reprendre Mulholland Drive, la première scène d'amour entre les deux filles, quand Naomi Watts dit « Mon Dieu, je suis en train de tomber amoureuse de toi ». Enfin, c'est bouleversant.
Ouais, ouais,
enfin, c'est quelqu'un, voilà, qui prend ça très au sérieux et qui, par ailleurs, sur les scènes d'amour érotique, etc., encore Mulholland Drive, a-t-on déjà vu au cinéma des scènes d'amour entre deux femmes filmées par un homme hétérosexuel et avec pas du tout un regard graveleux ou excité, mais avec un tel respect, une telle sensualité. Enfin, c'est quelqu'un de rare de ce point de vue-là, David Lynch. Alors,
ça me fait penser maintenant au film Bound des frères Wachowski, enfin, qui sont des sœurs aujourd'hui, mais à l'époque étaient des frères, effectivement, qui je trouve aussi avaient partagé aussi ce savoir-faire-là sur ce film, un film que j'adore avec Dina Gerson et Jennifer Tilly dans les années 90. Mais alors là, en pensant à Sailor Moon, je repense un personnage, c'est joué par Willem Dafoe, c'est Bobby Peru. Et je me tourne vers toi, Sid, parce que c'est toi dans ton rap, pour celles et ceux qui ne t'ont pas encore écouté, t'as aussi parfois quelque chose, tu sais, même qu'on a pu te reprocher dans la voix, même parfois quelque chose, tu sais, qui peut sembler même dérangeant, tu sais, pour certains auditeurs ou auditrices. Et je trouve qu'il y a aussi ça chez Lynch, avec des personnages qui sont parfois là pour déranger, ou pour, en tout cas, pour surprendre. On ne sait pas vraiment s'ils sont gentils, s'ils sont méchants. Il y a quelque chose parfois de, tu sais, d'étrange autour de certains personnages. Est-ce que ça a pu t'influencer, toi, dans le personnage, en tout cas, que tu incarnes quand
moi,
tu prends
gentil.
Le micro?
Moi, je suis un vrai gentil.
Oui, t'es un gentil, mais tu sais, on peut se poser la question,
bien sûr,
parfois,
bien sûr.
En t'écoutant, parce que t'es un gentil, mais qui aime bien taquiner, quand même.
J'ai pas ma langue dans ma poche, disons.
Non, mais tu vois, sur le côté, sur le ton que tu peux avoir, sur l'image que tu peux avoir, est-ce que ça a pu t'influencer d'une manière ou d'une autre?
Moi, je pense que j'ai deux influences dans ma vie. Une influence, on la choisit pas, comme ma voix, du coup.
Ouais.
Ma voix, c'est ma voix, et quand je fais de la musique, quand je chante, elle est aiguë, donc je l'ai pas forcément choisie. Après, je la pousse, peut-être. Du coup, on en revient peut-être à ce truc où c'est vrai que quand les gens me disaient on n'aime pas ta voix, elle est trop créate, je la poussais encore plus pour qu'elle le soit encore plus. Et si t'es pas content, c'est à peu près pareil. Et je pense que Twin Peaks, c'est une énorme influence dans ma vie, en fait. Mais
donc forcément,
j'ai pas d'explication pourquoi. Ouais. C'est juste que je suis tombé dessus. Le générique, tout à l'heure, on a repassé le passage où Badalamenti explique comment il a fait ce générique avec Lynch. Moi, quand je vois cette vidéo, on l'a tous vu, cette vidéo, j'ai envie de pleurer, quoi. J'ai vraiment les larmes aux yeux. Parce que ça me rappelle un truc de famille, de quand j'étais petit, de voir ce truc. Et du coup, ouais, c'est une influence énorme. Mais je sais même pas si on la ressent, à part moi qui vais faire chier les gens comme toi à dire « Alors, t'as regardé Twin Peaks ?»« Alors, t'as regardé ?» Mais je sais pas si ça pourrait être ressenti, quoi. Je sais pas si on pourrait le savoir sans... Tu vois, sans... C'est pas un truc que je vais référencer dans la musique ou...
Moi, je pense que Sid ici pourrait être un personnage de Twin Peaks.
C'est possible.
Et on va,
ah oui,
on
j'aurais
va,
adoré.
On
mais,
va s'en rendre compte tout de suite.
Mais pas James, s'il vous plaît.
Je pense qu'on écoute un morceau de Sid ici justement, de toi. Le morceau Cantona à Manchester.
Ah,
parce
wow.
que dès qu'il y a une référence à Cantona, moi, je suis content. Et on pourra continuer à parler, évidemment, de David Lynch juste après.
Comme ma vasectomie, j'suis en pleine forme, j'ai assez dormi. Ok, j'admets, j'écris des rimes assez torrides et quelques trucs anecdotiques, vu que j'ai pas mal de rhétorique en théorie. J'suis allergique aux comiques, mais hyper à l'aise aux chromies. Oh, me. pas dire que la vie est belle, fils. Hein, je rappe comme un mec de Philadelphie. Everyday, il faut qu'elle dise fuck Bill Cosby. J'suis de l'époque du Big Ross, bitch. Switch, comme Cocotte à Chicago. Oh oh, que personne ne bouge comme Omikado, arigato. J'écoute Benny Siegel, j'écoute Claude Nougaro. Tellement le gamo c'est gros, impossible de nous garer. Impossible de nous calmer comme l'eczéma. Dès le départ, s'il dit excella, car j'vais quand même pas m'arrêter là. Non, rien à battre de choquer, trop frais comme Silk de Choker. J'débarque avec un style de chopper. On m'appelle Sid le crooner, j'ai les pare-balles sous le crewneck. Légendaire comme Joe Cocker ou le sourire du Joker, j'suis cantonné à Manchester. Oh, légendaire comme Joe Cocker ou le sourire du Joker, j'suis cantonné à Manchester.
Le morceau s'appelle Cantona à Manchester et il est rappé par un de nos invités du soir, Sidi Sid.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Le fameux I'll see you in 25 years dont parlait Nathalie tout à l'heure. Aujourd'hui, donc Davinich, on l'a dit, nous a quittés il y a un an. Est-ce que vous voyez des héritiers ou héritières directes à Davinich dans le cinéma actuel, Nathalie? Est-ce que vous voyez des gens dont le cinéma a pu être influencé par Lynch ou pas forcément?
Alors l'influence est évidente, par contre, je suis désolée, là je donne ma langue au chat sur des gens qui auraient sa finesse dans le mélange des registres, des gens, il y en a sûrement, mais là j'ai un trou.
C'est peut-être aussi quelqu'un.
Aidez-moi.
Non, c'est, ouais. c'est pas une question. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est compliqué aussi à recopier, mais en
c'est
tout cas.
Je crois que c'est quand même un cinéaste trop audacieux, trop singulier. Enfin, c'est quelqu'un qui quand même à sa façon a toujours refusé de faire le même film. C'est ça aussi c'est qu'il vrai. Faut dire sur Lynch. C'est des années de silence. Voilà, c'est ça qui
il
est étonnant.
Il a pris ce luxe-là, ouais.
Mais bien sûr, c'est quelqu'un...
Parce qu'il n'avait pas envie.
Ou qu'il n'avait pas l'idée. Moi, à chaque fois, j'en ai discuté avec lui, pas très souvent, mais deux ou trois fois, je lui disais, mais alors, quand est-ce que ça démarre? Et il était là, ZAD, enfin voilà, il fallait trouver l'idée. C'est pas quelqu'un qui va prendre un petit polar, comme peut faire un cinéaste, en faire un truc personnel et faire un film de plus. S'il n'a pas l'idée de son architecture, d'une nouvelle pièce dans son univers, il n'y va pas. Donc pendant des années et des années, on a attendu, avant la saison 3 de Twin Peaks, et aussi après, parce que visiblement ça n'a pas grand-chose à son inspiration, on a attendu un nouveau film de Lynch et qui n'est jamais venu. Donc des influences, je vois pas. Moi, ce qui me fait plaisir, j'y réfléchissais en venant faire cette émission, c'est que quand même, il y a eu une rencontre qui clôt un peu les choses de la plus belle des façons. C'est que Spielberg a fait un film autobiographique qui s'appelle Les Fabelmans.
Fabelmans, absolument.
Bon, il a eu cette idée assez géniale, parce que Lynch et Spielberg est un peu plus vieux que lui, mais on peut difficilement trouver plus opposé quand même comme cinéaste. Hein. Bon. Et donc, pour incarner John Ford à l'écran, John Ford qui est vraiment l'incarnation même du plus grand cinéma américain classique. Orson Welles disait, qu'est-ce que c'est que le cinéma américain? John Ford. Ok, John Ford disait, merci pour le compliment. Et donc Spielberg prend Lynch pour incarner John Ford, qui donne une leçon de cinéma à un tout jeune homme, qui est évidemment Spielberg lui-même. Et donc que cette histoire se soit terminée comme ça, qu'un cinéaste aussi singulier, aussi expérimental, que Lynch, sous la caméra d'un type comme Spielberg, qui a renouvelé le grand spectacle hollywoodien. Mais voilà, et on est très loin de David Lynch, qui est quand même un cinéaste pour Happy Few, on va pas se raconter l'histoire. Mais que tout d'un coup, il fasse John Ford sous la caméra de Spielberg et qui donne une leçon de cinéma, je trouve que quand même c'est une sacrée belle façon de terminer l'histoire.
Est-ce que, Nathalie, il y a peut-être un film comme une histoire vraie, dont on n'a pas parlé. Je crois que c'est vrai qu'il y a un film, pour le coup, qui est peut-être un peu moins lynchien au premier abord, en tout cas, pour lequel il y a peut-être une affection particulière chez toi.
J'ai une affection particulière pour une histoire vraie. Au départ, ça devait être sa femme de l'époque, Mary Sweeney, qui devait le réaliser d'après une histoire vraie, donc l'histoire de ce vieux dinosaure de 70 ans qui, à l'approche de la mort, veut aller rejoindre son frère à qui il n'a pas parlé depuis 15 ans et qui, comme il n'a pas d'argent, pas de voiture, il va y aller, il va traverser au moins deux États américains sur sa tondeuse à gazon.
Ouais.
Donc ça, c'était une histoire racontée dans le journal. Mary Sweeney, la femme de David Lynch, en écrit un scénario. Au départ, ça ne l'intéresse pas du tout, Lynch. Puis quand elle lui donne à lire son scénario, il est subjugué par l'émotion pure, simple, premier degré qui se dégage du scénario, il veut absolument le réaliser. Et Mary Sweeney disait, je suis content qu'il ait eu envie de faire ça, parce que ça montre son côté doux, que certaines œuvres comme Blue Velvet ou autres peuvent un peu cacher par les bouffées de violence. Il avait un côté super lumineux et solaire. Et alors là, c'est une ode à l'Americana, à la vieillesse, pleine de sagesse. Ouais. C'est un film très beau.
Absolument. Et un peu méconnu, en fait, dans la filmographie, quelque part, de David Lynch. On ne l'associe pas immédiatement à ça, alors que c'est un film marquant. Toi, tu me disais en rentrée que c'était un film Disney pour toi, Sid.
Ah, c'est produit par Disney.
Ah, c'était pas de la méchanceté.
Je crois que c'est Disney.
Je ne sais pas.
Je suis
presque sûr.
Ah, bah, ou distribué.
En tout cas, ouais,
pas sûr que ce soit produit, mais Disney n'a pas mis sa main dans le scénario.
Non, évidemment, mais en tout cas, c'est Disney. Il y a Disney à un moment donné qui...
qu'on n'imagine pas forcément associé au cinéma de David Lynch
au premier abord.
Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui vraiment pour parler de David Lynch, qui donc nous a quittés il y a un an, mais ses films sont là pour l'éternité. Évidemment, si tu disais que ton film, si tu devais donner une porte d'entrée vers le cinéma à l'œuvre de David Lynch, tu citerais quoi ? Twin Peaks ?
C'est pas une porte d'entrée, mais...
C'est compliqué de...
Ça dépend à qui.
Ouais.
Nathalie
Si c'est à ma grand-mère, je dirais Elephant Man parce que c'est le plus classique. Quelqu'un d'un peu plus rock'n'roll, je dirais Blue Velvet. Et sinon, pour tout le monde, grand public, Mulholland Drive.
Ouais. Frédéric, d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais Blue Velvet, ça reste le moment où il pose un peu son système, ouais.
Absolument. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous trois. Merci Sid. Merci. J'attends l'album consacré à David Lynch, ou à Twin Peaks à minima. Fais-le, fais-toi plaisir, régale-toi.
Je suis pas sûr.
Merci beaucoup Nathalie Bitinger, merci Frédéric Bonneau et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Cohy. La programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Gaspard Guy Bourget et Loïs Moreau. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons en émission avec Daniel qui sortira son premier album intitulé Zmig. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.